Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
Le mouvement des jeunes écologistes ont mené récemment une grande campagne qu'ils ont nommée la Révolution énergétique. Lucas Nedelec, chargé de communication pour le mouvement, nous en explique les grands principes.
Alors on a appelé cette campagne Révolution énergétique. Qu'est-ce qu'on a voulu exprimer par là? C'était la nécessité d'avoir un grand changement de modèle. Voilà. Pour vivre, pour développer la société, pour s'organiser, on a besoin d'énergie, que ce soit dans les transports, pour se chauffer, pour produire de l'électricité, pour produire de la nourriture avec l'agriculture. Et on vit actuellement dans un système qui est hérité des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'on ne se soucie pas trop de savoir ce que ça va coûter, on ne se soucie pas trop de savoir si on est en train d'épuiser ou pas les ressources naturelles. Toujours est-il qu'il y a beaucoup trop de gaspillage. On dépense de plus en plus d'énergie, et ce, de manière inutile. Et le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Les réserves de pétrole, de gaz, d'uranium, de charbon sont en train de s'épuiser à très très court terme, c'est-à-dire qu'avant la fin du siècle, on risque d'être dans une sacrée panade. D'où notre appel à une révolution énergétique qui constituerait en un triple mouvement. D'abord une phase de sobriété, c'est-à-dire arrêter les dépenses et les gaspillages inutiles. Pour ça, il faut isoler les logements, il faut éteindre les vitrines et les bureaux la nuit. Il faut chasser tous ces petits gaspillages, également le gaspillage alimentaire qui sont source de dépenses absolument superficielles. La deuxième étape, c'est l'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la manière dont fonctionnent nos appareils, nos voitures, nos bus, la manière dont on construit nos logements, construire et se développer de manière la plus économe et la plus sobre possible. Et la troisième, c'est la phase énergie renouvelable. Du vent, de l'énergie du soleil, de l'énergie de la mer, de l'énergie du bois, de l'énergie des marées, qui sont des énergies inépuisables, gratuites et accessibles un petit peu partout dans le monde. Voilà, c'est un petit peu cette triple révolution qu'on appelle de nos voeux avec cette campagne des jeunes écologistes.
Dans votre motion sur votre site sur la transition énergétique, vous dites que dans 10 ans, 53 des 58 réacteurs français auront plus de 30 ans, soit la durée de fonctionnement pour laquelle il a été conçu. Est-ce que l'on a l'intention de réinvestir là-dedans pour les remettre aux normes ou d'investir carrément ailleurs?
Alors, le problème, c'est que actuellement EDF et a priori le gouvernement veulent prolonger la durée de vie des centrales. Pour une raison simple, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à opérer leur mue vers les énergies renouvelables, parce que ça les ennuie. L'énergie du vent, l'énergie du soleil, etc., c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Effectivement, ça fait moins de sous dans les caisses d'EDF et d'Areva. Et le problème aussi, c'est qu'on est confronté à un enjeu majeur, c'est qu'on ne sait pas démanteler les centrales. Le seul exemple qu'on a, c'est en Bretagne, la centrale de Brennilis, qui est une centrale expérimentale. Et on s'aperçoit que ça a coûté en moyenne 5 fois plus cher de démanteler cette centrale que qu'on avait prévu à la base. Alors imaginez, quand on multiplie le chiffre par 5 à l'ensemble des centrales nucléaires françaises qui sont sur la fin de vie qu'on va devoir démanteler, ça va coûter énormément d'argent. C'est pour ça que nous, écologistes, on dit il faut anticiper. Commençons dès maintenant à démanteler les centrales. Il faut absolument qu'on ait des formations des salariés d'EDF et d'Areva pour que les savoirs, les savoir-faire et les compétences de ces gens-là soient mis à profit du démantèlement des centrales. Et ça prendra le temps que ça prendra.
Ouais, pour des jeunes écologistes, vous suivez vraiment la voie de la sagesse.
Ah bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Nous, on en est persuadés, mais il reste encore beaucoup de monde à persuader, à convaincre.
En fait, j'ai une dernière question. Toujours dans votre motion sur la révolution énergétique, vous dites « Les conclusions du rapport Stern ainsi que les études de l'Agence internationale de l'énergie ont démontré le coût prohibitif de l'inaction puisque chaque année de retard de la mise en place d'actions appropriées contre les émissions de gaz à effet de serre fait augmenter de 500 milliards de dollars les coûts liés à la réduction des émissions dans le secteur de l'énergie. » Alors ma question, c'est quels sont ces coûts liés à la réduction de l'énergie? Qui les paye et à qui?
On est face à un dilemme, c'est-à-dire que si on change, ça va coûter quand même un certain volume d'argent, c'est-à-dire que ça va coûter cher, il va falloir se former, il va falloir développer des nouvelles solutions. Si on ne change pas, ça va coûter encore plus cher. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir absolument s'adapter au réchauffement climatique, il va falloir trouver des solutions pour constamment compenser les conséquences de nos actes, et ça va coûter encore plus cher.
Donc ce serait investir dans d'autres technologies qui essaieraient de réparer les dommages collatéraux.
Pas tellement. Nous, on n'est pas dans une culture de la compensation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui veulent absolument développer la compensation carbone, qui veulent développer la captation de CO2 pour, en fait, à long terme, continuer dans le même sens et, en fait, ne pas changer de modèle. Nous, on pense que la solution technologique, il ne faut pas la rejeter. Elle fait partie intégrante de la solution globale. Mais par contre, nous, on milite surtout pour un changement de modèle.
Pour plus d'informations sur cette campagne, rendez-vous sur le site jeunes-écologistes.org.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavinet.